19h.
Aujourd'hui, nous avons moins de lits et moins de personnel qu'en janvier. On est dans une situation où depuis le déconfinement, les plans d'économie ont repris dans les hôpitaux. Ils continuent à fermer des lits par-ci, par-là, y compris des lits de réanimation. On est toujours à 5000 lits de réanimation, dont une partie ne sont pas opérationnelles faute de personnel.
Là, ce qu'il faut comprendre, de toute façon, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation.
Les salaires, ils sont parmi les plus bas d'Europe. Les conditions de travail sont parmi les plus mauvaises en Europe.
C'est une question d'organisation.
31 000 soignants, dont 29% infirmiers et 24% aides-soignants, ont été contaminés par le Covid lors de la première vague. Là, ils viennent de décider que la reconnaissance en maladie professionnelle, ce sera que pour les soignants décédés ou qui sont passés sous assistance respiratoire. Mais comment on peut être plus immonde ?
De toute façon, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation.
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche.
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
Capitalisme, pas et jouez pas au con avec
lui. On est trop gentil.
Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
Donc on est gentil, hein, on est toujours gentil.
C'est tout ce capitalisme, n'est pas
rouge, je veux dire, arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein. Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Allez, comme tous les lundis, on passe au rouge de 19h à 20h sur Radio Campus 106.6 avec aujourd'hui, comme chaque lundi, dans cette émission de lutte des classes, réalisée par toi, Seb.
Et une émission animée par Gros Dada.
Je te prends toujours un peu différemment, oui, tu vois. Oui. Mais c'est comme ça, la vie. Oui. Comme ça, tu t'habitues pas.
Oui, j'aime quand tu me prends différemment. Surtout quand on va parler de la manif pour tous.
Il faudrait que j'en parle à mon psy, comment je te parle, parce que c'est un peu bizarre. Massi Toto, vous êtes là chaque semaine pour déverser. Vous déversez, hein, littéralement, vous déversez contre la CGT. Aujourd'hui, contre qui ?
Mais arrête. Aujourd'hui, en fait, dans la chronique, on n'a pas employé le mot CGT.
Ok, donc on ne parlera pas de la CGT aujourd'hui.
Je vous interdis de dire
un peu quand même.
Ah si, quand même, on parlera de la CGT aujourd'hui. Quand même ailleurs,
c'est la marche, c'est bientôt la fin de la marche, hein, pour la dignité, pour l'emploi de la CGT et des sans-papiers.
En tout cas, on vous retrouve à la fin de cette émission. Il y aura, bien, il y aura le commentaire éclairé, toujours et toujours très juste, de mon ami Duche.
Et la bonne humeur, surtout, comme dirait Robert Smith.
Comme disait Robert Smith, le chanteur des Cure, hein, je vous rappelle.
Et Kurt Cobain.
Qui n'en finit pas de se suicider. Voilà, c'est ça la vie. C'est ça. Vive Robert Smith.
Merci Robert.
Cette émission, oui, donc placée sous le signe de la bonne humeur et de la bonne entente avec toi, Duche. On retrouvera Massi Toto. Il y aura la fin du feuilleton David Dufresne. C'est le troisième épisode, je crois, et ce sera le dernier cette fois-ci sur les violences policières.
Oui, c'est bien triste.
Oui, on ira voir
le film. Est toujours à l'affiche, hein, il est
vrai.
Métropole à Lille. Là.
Ça fait deux semaines qu'il est sorti. Il s'appelle.
Un pays qui se tient sage.
Voilà, c'est ça. Mais dis donc, tu vas arrêter de me couper.
Pardon.
Parce que sinon, à la limite, tu prends ma place et puis moi, je prends la tienne. Puis,
on passe au rouge.
Oui, c'est parti. Et donc, manif, on ira en manif avec des profs aussi, c'est sérieux ça, ils souffrent.
Oui, hein, non, ça va pas bien du tout pour les profs. Là. Petite anecdote au passage, là, un peu partout, les recteurs d'académie engueulent les profs maintenant parce qu'en fait, ils prennent des pauses déjeuner ensemble et que c'est à cause d'eux si jamais ils sont contaminés. Hein. C'est de leur faute, c'est parce qu'ils utilisent mal leur masque, ils respectent pas les gestes barrières. Mais bon, les gamins ne transmettent pas le virus, c'est sûr.
Ça s'est jamais vu. En parlant de cons, tu vois, on passera à la manif pour tous aussi. Tu m'avais dit de pas trop rester digne avec eux.
On va entendre, des manifestants de la manif pour tous, et j'aimerais bien que dans cette émission, c'est pas Guillaume Meurice ici, et qu'on se fout pas de la gueule des gens qu'on interviewe, si c'est possible.
On peut critiquer, on a des arguments.
Est-ce qu'on peut critiquer à la limite le contenu ?
Critiquer, bien entendu, avec des arguments.
On se mette d'accord avant le début de cette émission. Et puis on retrouve, comme chaque semaine, le talon de fer de Jérôme Leroy, une chronique à relire dans Liberté Hebdo.
Un certain monsieur Taquet. Je ne connaissais pas Adrien Taquet. Adrien Taquet est secrétaire d'État en charge de l'enfance dans le gouvernement Castex. Avant d'être secrétaire d'État, Adrien Taquet était député de République En Marche. Je sais en revanche ce qu'est la République En Marche. C'est le parti d'Emmanuel Macron qui est passé de 315 députés en 2017 à 277 en 2020, c'est-à-dire bien en dessous de la majorité absolue. Bref, un parti qui fond plus vite que l'Antarctique, ce qui devrait inquiéter Barbara Pompili, ministre de l'écologie et des néonicotinoïdes. Revenons à Adrien Taquet. Adrien Taquet a piqué une grosse colère. Il a été scandalisé par les propos d'Éric Zemmour, le multirécidiviste de la haine raciale. Il est vrai que la dernière sortie de Zemmour est particulièrement gratinée. C'était sur CNews, c'est la chaîne info de Bolloré qui trouve que laisser débattre des polémistes d'extrême droite et de droite extrême est un bon filon à heure de grande écoute. Ces débats sont toujours intéressants et offrent des sujets stimulants. Par exemple, faut-il tirer à vue sur les délinquants des banlieues ou les pendre sur place pour l'exemple? Ou alors, Raoult est-il un génie persécuté par les gauchistes ou un grand virologue victime de ses collègues jaloux? Dans ce Marigot Poujadeau, le péniste, ce bistrot de fascistes décomplexés, Zemmour, c'est un peu le gars qu'on écoute avec respect en réprimant un rôle alcoolisé parce que lui, il a de la tchatche et des diplômes. Et voilà qu'il vient de dire, ce sympathique garçon, « Les jeunes issus de l'immigration sont tous des voleurs, ils sont tous des assassins, ils sont tous des violeurs. » Alors, Adrien Taquet, qui avant d'être allé à la gamelle chez Macron, était proche de Strauss-Kahn, il n'est pas content. Les jeunes de l'immigration, les mineurs non accompagnés, c'est tout de même dans ses attributions. Et il a déclaré qu'il avait trouvé les propos de Zemmour scandaleux et qu'il s'est félicité que le CSA, ouvrez les guillemets, ait pris ses responsabilités et signalé les faits au procureur. On pourrait se réjouir des propos d'Adrien Taquet, se dire qu'au moins En Marche, si favorable au libéralisme économique, reste encore un peu de gauche. Ce serait oublier que la grande occupation de Macron aujourd'hui, c'est de lutter contre le séparatisme. Le séparatisme, c'est le mot poli pour montrer du doigt les quartiers de nos villes qui seraient passés sous le contrôle d'islamistes plus ou moins dealers. Et, pas de chance, c'est exactement ce que répète tous les jours, depuis des années, Zemmour, perdu dans une islamophobie qui confine à la psychose. Alors, si Adrien Taquet était vraiment scandalisé par les propos de Zemmour, il ne resterait pas un seul instant de plus dans un gouvernement qui fait du Zemmour pour qu'on oublie son incompétence dans la gestion de l'épidémie et dans sa relance économique qui se limite à aider les patrons à licencier avec l'argent public. Mais pour cela, il faudrait que le secrétaire d'État Taquet et du courage ou de la logique, ce qui revient au même. Sinon, on finirait par croire qu'il est, tout simplement, un bel hypocrite.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com.
Exactement.
Alors, on est entre les deux manifs. Là, notre reporter passe d'une manif à l'autre, hein, qui sont à quelques mètres. Il y a le cordon de CRS qui est prolongé par le cordon des sécu citadelle, en fait, hein, des fachos de la citadelle, qui font la sécu pour la manif pour tous. Et on balade le micro d'un l'un à l'autre. On entend l'alternance, en fait, des sons de gens qui sont assez proches, à 2-3 mètres les uns des autres.
Ferme ta gueule, ça c'est la manif anti-manif pour tous.
Oui,
pour
les contre-manifestants, on va dire, c'est
et
ça.
Respecter
ça.
La filiation père-mère, ça c'est les FAF.
Ah putain, bah oui, tu vois, moi j'avais confondu.
Donc, voilà. C'est réducteur.
C'est des catholiques.
À l'unité de la société.
Donc c'était ce samedi à Lille qu'on était 3, je crois, hein, sur ce plateau à être à cette manifestation. Massilia et Toto en reparleront dans leur chronique tout à l'heure, mais enfin, on les invite quand même à commenter. C'était ce premier moment, et ensuite la manif pour tous a effectivement démarré, et les flics nous ont empêchés, enfin, ont empêché les contre-manifestants de... En même temps, c'est un peu évident, n'est-ce pas? Ils protégeaient la manifestation déclarée des contre-manifestants qui étaient n'étaient pas d'accord. En termes de nombre, ils étaient au final à peu près 200-300 à la Manif pour tous. Et du côté des contre-manifestants, ça a dû monter jusqu'à 600 à peu près. Hein, à peu près le double.
Et là, on va entendre, toi, tu as réussi d'aller prendre des interviews des deux côtés, c'est ça hein?
Oui, c'est pas un exploit. Les manifestants de LMPT se laissent interviewer facilement. Je n'ai aucune. Je n'ai pas eu de soucis particuliers. J'avais juste peur que les contre-manifestants me disaient hey, connard, pourquoi tu allais leur donner la.
Ah, ça, c'est les Antifa, on les connaît. Hein.
Oui.
Eh bien, ils étaient respectueux, les Antifa. Ils étaient très, très respectueux pour le coup.
Alors, on va entendre tout de suite une
il faut entendre le son des manifestants de la Manif pour tous.
Comment on les appelle alors on va dire une,
les manifestants. Ce sont des manifestants.
C'est ça.
Les autres.
Les autres.
L'anti-France.
On va les entendre. On va les entendre pendant un petit moment. Quoi. On a rencontré deux manifestants de la Manif pour tous.
Ne changez pas de chaîne. On prévient l'auditeur, c'est pas habituel
dans On passe au rouge.
Oui, d'habitude, c'est Jean-Jacques qui passe des gens comme ça, mais là, c'est
Ah non, c'est pas vrai.
Bah, il est pas là, bim,
allez. Pas du tout. On l'entendra, Jean-Jacques, dans un de ses reportages tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, donc là, on va entendre deux manifestants de la Manif pour tous. Il va y avoir une femme qui travaille comme nounou, je crois, et ensuite un étudiant. Ils nous disent pourquoi ils sont là, ils nous disent qui ils sont, quel est leur statut dans la vie, et on cherche quand même en savoir un peu plus pour savoir, comme ils ont une capacité à se mobiliser, est-ce qu'ils utilisent cette capacité aussi pour défendre, par exemple, notre retraite ou les soignants
ou des
trucs comme
ça. Ou les migrants, peut-être, non?
Peut-être aussi. Oui, je sais pas. Peut-être. C'est possible.
Cette manif pour tous, qu'est-ce qui me mobilise? C'est la pauvre tristesse du monde. L'homme est en train de détruire l'homme. C'est triste.
De quelle façon, selon vous?
De la façon que on va modifier tout doucement tout ce qui est les embryons. Et regardez aux États-Unis, on peut déjà choisir un enfant qui a les yeux bleus, qui a les cheveux bruns. Et je ne suis pas sûre que nos petits-enfants puissent un jour vivre sur cette planète heureux. C'est triste. Il y a quand même 320 000 avortements par an. Et maintenant, on veut prolonger l'avortement jusqu'à 14 semaines.
Vous, l'avortement, vous êtes contre ?
Je peux pas, je juge pas, je suis contre parce que c'est mes convictions personnelles.
Et vous-même, madame, pour que nos auditeurs comprennent qui sont les gens qui participent à la Manif pour tous, vous-même, vous travaillez ?
Oui, je travaille, oui.
Vous pouvez nous dire dans quoi ?
Je suis assistante maternelle. Je garde des enfants.
Est-ce que vous vous mobilisez aussi pour d'autres causes? Là, il y avait la retraite, il y avait les manifs pour les soignants, par exemple, ou bien pour la planète qui s'effondre.
Oui.
Vous participez à ça?
Non, la planète, j'aimerais bien, mais non, j'y vais pas. J'aime pas trop aller aux manifester. Je n'y vais pratiquement jamais manifester. Mais là, c'est quand même... c'est exceptionnel aujourd'hui.
Vous faites partie de la manif pour tous, là,
c'est ça?
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous motive à venir aujourd'hui ici?
Parce que déjà, on pense que c'est une loi qui va engendrer beaucoup de problèmes en France et pour notre société.
Vous parlez de quelle loi ?
La loi de bioéthique, pour la PMA pour toutes, etc. Parce qu'on va marchander les enfants. Or, les enfants, ils ont des droits. Les animaux, ils ont bien des droits. Et les enfants, ils en ont aussi. Et on sait que ça a un vrai problème sociétal qui va conduire à plein de problèmes démographiques, même au niveau de la morale. On ne peut pas jouer avec un enfant. On n'a pas le droit de vie et de mort sur un enfant.
Vous êtes étudiant, vous travaillez ?
Oui, je suis étudiant, oui.
Les conditions de vie des étudiants dans ce pays, elles sont bonnes ?
Non, c'est compliqué.
Vous participez aussi aux mobilisations des étudiants pour défendre leurs conditions d'exercice ?
Ça dépend quel type de manifestation. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, actuellement, je crois qu'il y a une loi qui a été votée pour que les étrangers payent. Les étrangers qui arrivent et qui vont dans les universités françaises payent. Ouais. Moi, je ne vais pas manifester contre, parce que c'est logique. C'est logique parce que nous, on a un enseignement gratuit. Enfin, pour la plupart des écoles, après, ça dépend ce que vous faites. Mais on a un enseignement gratuit. Et les gens ne sont jamais contents. C'est-à-dire qu'ils veulent le même droit pour tout le monde. Mais tout ça, c'est un coût. Il faut payer les professeurs. Il faut payer les locaux. Et tout ça, ça vient pas du ciel, quoi. L'argent, il tombe pas du ciel, donc non.
Les étudiants étrangers qui viennent ici, ils payent les impôts, la TVA,
ouais,
les impôts sur le revenu.
Exactement, ils contribuent et ils payent donc pour la fac, ils payent donc pour les universités. Pour moi, c'est normal, je trouve ça normal. On peut pas tout avoir gratuit, c'est pas possible. Pas pour tout le monde. Parce que ça coûte cher, parce que c'est-à-dire que les gens vont payer, il y en a qui vont payer plus alors que d'autres vont pas payer, et je trouve pas ça normal.
Il faut que les droits ne soient pas les mêmes pour tout le monde, en fait. C'est ça qui est important.
Non, pour moi, tout le monde a des droits à partir du moment où nous sommes citoyens français et que nous sommes français. Là, on doit tous avoir les mêmes droits, je suis d'accord.
Vous tenez des propos qui ressemblent quand même fortement au Front National. Hein,
bien sûr, mais ouais. Je ne suis pas du tout du Front National. Je ne cautionne pas le Front National parce que pour moi, ils sont dépassés.
Comme vous êtes en capacité de vous mobiliser, là, il y a eu des grandes mobilisations dans ce pays, il y en a régulièrement. Oui. Je pense aux grandes mobilisations pour la retraite ou bien en soutien au personnel hospitalier. Vous y étiez, vous, dans ces manifestations ?
Non, j'y étais pas, mais je suis d'accord avec eux. Parce que moi, je trouve pas ça normal.
Pour vous, la PMA, c'est primordial, c'est bien au-dessus de ces questions.
Bien sûr, parce qu'un enfant, c'est facile de s'attaquer à lui. Ouais. Il va pas aller manifester, un gosse. Un gosse, il va pas aller voter. C'est facile de s'attaquer à lui, il n'a pas de défense. La seule défense qu'il a, c'est ses parents, sa famille, etc. C'est important d'avoir les deux côtés, parce qu'un homme et une femme, c'est très différent. On ne réfléchit pas de la même façon. On n'éduque pas de la même façon.
Les hommes et les femmes ne réfléchissent pas de la même façon, vous dites ?
Non, on n'a pas la même mentalité logique. Enfin, c'est-à-dire que, je sais pas, je vais prendre l'exemple avec ma copine. Pour un même problème, eh ben, moi, je vais avoir des solutions. Et elle va avoir d'autres solutions, mais qui des fois, n'ont rien à voir.
Et selon vous, ça, c'est dû au genre ?
Et ça, c'est dû au genre, en général. On verra dans 30 ans que deviendront ces enfants qui sont issus de PMA.
On peut déjà voir, hein, parce qu'il y a déjà des enfants aujourd'hui qui ont grandi et qui sont issus de couples homosexuels.
Ils
et comme on l'entendra de la bouche d'une contre-manifestante, des études ont montré très clairement, sans aucun doute possible, qu'un enfant issu d'un couple homosexuel est un enfant qui est équilibré, ni plus ni moins qu'un enfant issu d'un couple hétérosexuel.
Ça avait l'air d'être
des études de gauchistes.
Et t'avais l'impression d'écouter quand même une ligue de pessimistes là, qui était dans la rue. Tu voulais dire quoi, toi ?
Tristesse, hein, dans la
tristesse pour tous. Sur le ça, monde. Hein, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, qui est la seule genrée, je sais plus comment on dit.
Non, t'as été choqué sur le coup des étudiants étrangers, oui, parce qu'ils se plantent.
Moi, je veux revenir sur autre chose. Je vais commencer par un slogan, mon corps, mon choix, et personne ne décidera pour moi. Aujourd'hui, il y a 21% des familles qui sont des familles monoparentales, dont 18% ce sont des mères seules qui élèvent leurs enfants. Est-ce que ces enfants là sont équilibrés? La plupart, oui, ils le sont. Oui. Sinon, les problèmes viennent d'autre chose. Et encore une fois, ça reste des problèmes liés à la société. Donc, faut arrêter d'essayer d'imposer une vision de la vie. Par exemple, moi, j'adore les jambons. J'adore le chicon au jambon. Ah, oui. Le chicon au jambon, je kiffe ça. Je force personne à en manger. Donc en fait, c'est pas parce qu'ils ont une vision de la vie qu'ils ont l'ambition de l'imposer à des personnes alors qu'ils ne vivent pas avec elles et qu'ils n'ont pas en fait leur manière de vivre. C'est quand même incroyable de continuer à essayer d'imposer des droits qui ne nous concernent pas à d'autres personnes. Et du coup, je vais conclure par un autre slogan. Vaut mieux une paire de mères qu'un père de merde.
Ouais, c'est un slogan c'est qu'on a mal, vu beaucoup dans la manif.
Sympa,
ouais.
Sympa.
Ouais.
C'est pas mal.
Du côté des contre-manifestants, bien sûr.
Rebondir tu veux rebondir
pas, non, je sais pas, vous êtes tous fœtus pour tous, là.
Moi, je suis fœtus.
Fœtus pour tous.
On est fœtus, toi, t'es fœtus. Il a mis son masque, là, du
jeu. Ouais, ça s'entend.
Il veut étouffer son... Tu voulais dire un truc, Toto ?
Mais j'ai forcément un truc à dire. Par rapport à cette femme, là, cette assistante maternelle, voilà, qui se mobilise, là, contre les droits des autres. Voilà, contre en fait un truc qui ne l'intéresse pas personnellement, mais par contre quand c'est pour ses droits, là elle est pas là. Mais après en fait ça pose la question de savoir qui est la manif pour tous. Ça vient de qui? En fait la manif pour tous, hein, historiquement, c'est fait par notamment des personnes en lien avec l'Église catholique, la petite bourgeoisie, hein, qui reste. On reviendra tout à l'heure.
Il y avait
dans
un curé en soutane dans cette manif à Lille.
En fait, il y a clairement des intérêts de classe qui sont défendus. Et l'autre truc qui m'a choqué, c'est l'homme qui dit que le FN est dépassé.
Oui, on se demande.
Mais frère,
pour lui,
le FN est dépassé. Mais qu'est-ce que tu penses?
Parce que c'est le RN brune. Maintenant.
Voilà, c'est.
Ça change absolument tout.
Tu l'appelles quand même frère, hein, ça fait plaisir.
Ouais, non, en fait, je suis juste dépité, non, c'est pas mon frère.
Factuellement, quand l'étudiant, je lui pose la question sur les impôts que payent les étrangers en France, et donc du coup, il paye déjà la faculté, il rebondit, mais sans peut-être comprendre tout à fait le sens de ma question, hein, je veux dire, donc il paye deux fois, en fait, hein, les étudiants étrangers, quand on leur met des 4000 balles par an pour la fac gratuite pour les Français, comme ils la payent déjà par leurs impôts, qu'ils la payent en plus, voilà, c'est le double.
Puis, juste si je peux rajouter une dernière chose, en tant qu'assistante maternelle, elle est censée savoir qu'un enfant, pour se développer correctement, il a juste besoin d'amour et de soutien et de compréhension.
Il faut différencier.
Et que la personne qui lui donne ça soit possède un pénis ou un vagin, tant qu'il
est. C'est beau ce que tu dis, jusqu'à pénis.
Voir les deux, pourquoi pas.
Jusqu'à pénis, après, ça s'est effondré ce que tu as dit. Et là, tout de suite, on va écouter l'autre côté de la barrière, c'est ça ?
Oui.
L'anti-manif pour tous.
Les contre-manifestants.
Le contre-manifestant.
Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, vous ?
En solidarité et pour
pour soutenir les personnes qui veulent avoir une PMA comme elles veulent. Il y a eu des études qui ont été faites par plus de 16 sources différentes qui ont été publiées et ça a montré qu'il n'y avait aucune différence entre un enfant élevé par un couple de lesbiennes et en effet un enfant élevé par des couples hétéros. Et même on pourrait dire que des personnes qui se sont battues toute leur vie pour avoir un enfant, bah, au moins elles vont les désirer. Et ce qui n'est pas forcément le cas dans les couples hétéros. Ils défendent l'ordre qui est établi et puis chaque changement, ça les bouscule dans leur être. Et du coup, ils manifestent contre. Mais...
Et oui.
Mais c'est complètement à l'inverse de ce que la société est aujourd'hui parce qu'il n'y a vraiment plus aucun modèle familial type dans notre société, que ce soit parce que les parents sont divorcés, parce qu'il y a plusieurs. Parce qu'il y a de la coparentalité, mais aussi parce qu'il y a des couples homosexuels et lesbiens qui élèvent leurs propres enfants. Donc ça n'a plus aucune réalité dans le monde d'aujourd'hui.
On se demande parfois, les gilets jaunes sont de quel côté? Bon, bon, avec vous, on a une réponse. Aujourd'hui, vous êtes du côté des contre-manifestants.
Oui, exactement. Pas dans la exactement. Aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'il y a quand même quelques gilets jaunes qui sont en face, en fait. C'est vrai que ce qui a rassemblé les gilets jaunes, justement, c'est l'ensemble de nos idées. Et là, on voit bien que le préfet l'Allemand, il disait, effectivement, il y a deux camps. Et il y a même deux camps dans le peuple, et c'est ça, c'est qui est bien dommage. Je suis à l'opposé de la police, et la police, elle protège quoi? Ben, d'habitude, c'est les banques. Elle protège d'habitude le patronat. Et là, visiblement, elle protège une certaine catégorie de gens. Et moi, je ne suis pas du camp de la police. Depuis 2 ans, j'ai ouvert les yeux. Et pour moi, c'est impossible d'être du côté de la police.
Mais pourtant, les gens qui sont en face, ils vous ressemblent énormément.
Comme on dit en Belgique, les déconnecs, les grands coups, les cols blancs, ils se croient en haut. Mais le peuple, quand il y aura une révolution, ça se passera en bas. Eux, ils devront choisir vraiment leur camp.
C'est pas des cols blancs, eux aussi?
Si, c'est des cols blancs. C'est d'office, ils sont de droite. Ils sont de droite, alors bien sûr, on va me dire, ouais, mais du coup, c'est ni de droite ni de gauche. Du coup, t'es de gauche. Mais bien sûr, je veux dire, il faut arrêter la notion droite-gauche et prendre cette verticalité qui est entre le haut et le bas. Eux, ils sont en bas, et ça, ils ne l'ont pas encore compris. Mais petit à petit, les gens, ils vont comprendre que la révolution, ça se passera en bas contre ceux en haut, parce que c'est pas normal. Dans le monde où on vit, on est dans le pays du G7 qui a autant de misère. Autant de misère.
Donc là, on était du côté des contre-manifestants. On va écouter deux sons là très rapidement qui suivent.
Oui, alors, c'est qui exactement le dernier là, le son jeune, pour, là. Le dernier ouais. son pour le ce reportage là sur la manif pour tous et la contre-manifestation. Donc, ce qui s'est passé factuellement, mais Massilia et Toto reviendront tout à l'heure dessus, c'est que les flics ayant empêché les contre-manifestants de, on peut le comprendre, de suivre ou voire d'agresser la manif pour tous, eh bien, ces contre-manifestants ont commencé une manifestation sauvage qui était quand même garnie de plusieurs centaines de manifestants qui a déambulé dans l'île en faisant, c'était presque touristique parce qu'on a fait quasiment tous les quartiers pour finir dans le quartier Vauban-Équerre mais qui est le quartier de la bien nommée faculté catholique de l'île dans lequel on pouvait s'attendre à trouver des sympathisants de la manif pour tous et c'est le cas figurez-vous puisque les flics finalement ont chargé, ont attaqué les manifestants de la manif sauvage, donc les contre-manifestants. Et au détour d'une rue dans le quartier de Vauban-Équerme, je tombe sur trois jeunes gens qui sont véritablement en état de choc et ils viennent de se faire molester par la police nationale qui les a laissés sur place. Il n'y a pas de soignants, il n'y a pas de street medic, il n'y a rien. Ils sont par terre là sur le trottoir et vient une dame d'apparence, je dirais, plutôt bourgeoise qu'on entend là dans ce dernier son assez court.
Fait gazer et il y en a un qui a pointé son arme sur moi. Donc on a été obligé de courir dans ce sens-là. Donc là je vais rentrer parce que c'est devenu trop dangereux en fait.
Moi je me suis retrouvé balancé contre une bagnole alors que je marchais tranquillement, que je faisais rien. Il y en a un qui m'a chopé, qui m'a lancé contre un mur et contre une bagnole.
Vous tenez le coude là.
Ouais, j'ai été blessé.
Et vous là?
Moi je suis photoreporter pour le collectif Garda. Je suis à l'académie de la Gilles Lille. Uh-huh. Et j'étais derrière la jeune fille quand elle s'est fait viser par l'arme. Puis ils m'ont menacé avec la matraque. Et le monsieur s'est fait. Toi, Tu t'es fait pousser, j'étais derrière toi aussi.
J'étais balancé contre,
ouais, contre la voiture et le muret. Et après, on m'a gazé et non, c'est la sixième fois là depuis le début de la manif. Donc au bout d'un moment...
Ils sont déjà là.
On
est dans la rue, on a le droit d'être
devant
là.
Chez moi.
Non,
devant
chez les gens n'ont pas le droit d'être devant chez vous, madame.
Non, on est choqués.
On vient de se faire gazer, on a été choqués, madame.
Je sors mon chien. Je sors mon chien.
Non, il est où votre chien ?
Donc vous nous menacez, madame. Et là, actuellement, vous êtes en train de nous manifester de lancer un animal sur nous, ce qui est illégal.
Vous n'êtes pas pacifique du tout.
C'est Manon qui a
arrêté. Madame, on vient de se faire gazer.
Vous avez vu des manifestants armés ou agressifs ?
Moi, madame.
Non. En fait, moi, j'ai fait 10 manifs pour la manif pour tous.
Ah, vous êtes de la manif pour tous,
c'est pour ça, d'accord. Moi, je peux vous dire que ces gens-là, j'en ai rien à foutre. Et vous pouvez mettre à l'antenne.
Ouais. Madame, vous avez vos droits, vous êtes privilégiée, ok ?
Ta gueule, hein, ça s'est terminé par un ta gueule.
Non, mais voilà.
Mais de toute façon, tout à l'heure, elle m'a pris à partie, donc je savais déjà quoi m'attendre.
C'est elle qui était
partie. Elle est partie nous signaler tout à l'heure, mais bon, ils sont pas venus. Parce que vous étiez devant chez elle. Parce qu'on était ici. Ouais.
Bon, c'était la fin de ce reportage sur les manifs pour tous, de violences policières. On en reparlera en fin d'émission tout à l'heure avec le sujet sur Dufresne. Massy, tu voulais rebondir là ?
Oui.
Oui, bah super, rebondis.
Désolée. Moi, je voulais juste faire d'abord un point de différence entre le sexe et le genre, parce qu'on a tendance à mélanger un peu les deux termes. Donc le sexe, c'est ce qui relève en fait des organes génitaux. Et le genre, c'est beaucoup plus difficile à définir parce qu'on peut... Enfin, c'est beaucoup plus vaste, en fait, comme sujet.
C'est la représentation sociale.
C'est ça, c'est la représentation sociale qu'on se fait de soi et qu'on fait des autres. Et du coup, pour prendre un exemple et pour, en fait, juste montrer que c'est totalement stupide les critiques qu'on peut faire sur la question du genre, il y a une prof de biologie moléculaire qui s'appelle Anne Fostro-Sterling, qui, elle, a écrit un bouquin pour expliquer qu'il y avait 5 sexes. Parce que si on veut réellement définir le genre de quelqu'un à partir de son sexe, il ne faut pas prendre en compte uniquement les organes génitaux, mais par exemple les ovocytes, les ovaires, les gonades, et énormément de choses, en fait, pour définir réellement le sexe biologique de quelqu'un, et pas s'arrêter qu'aux organes génitaux.
Qui c'est qui est très gentil ? Économie, et qui gaspille son argent, qui c'est qui vend des fusils, qui c'est qui se retrouve devant, c'est comme un guignol spectacle permanent, et vive l'école et vive le rêve jument, tout le monde en rigole et tout le monde. Quitte à de l'antipathie,
les gentils,
quitte à un gros champ,
les méchants,
c'est travail, famille, patrie,
les gentils,
c'est la retraite à 20 ans, les méchants. Samedi, ils font ça n'importe quand, les méchants.
Michel Fugain, les gentils, les méchants. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6. Part tout de suite le mercredi 7 octobre dernier à une manif d'une quarantaine d'enseignants, c'est ça, devant le rectorat de Lille. Qu'est-ce qui se passe là dans l'éducation nationale ?
Ça se passe pas bien du tout dans l'éducation nationale. Les enfants tombent malades, les instituts tombent malades. On n'a pas les chiffres parce que le ministère en fait fait comme si tout allait bien, alors qu'en réalité on sait très bien que dans ce pays il y a des dizaines de milliers de clusters. Ça s'appelle des écoles, ça s'appelle des collèges, ça s'appelle des lycées et des facultés. Il y a un problème gigantesque. Et le ministère français, ça fait un peu de Tchernobyl, hein, quand même, hein, nous dit, non, c'est la faute des profs. C'est la faute des profs s'ils tombent malades. On en est là aujourd'hui, c'est officiel, c'est la faute des profs, vous les profs qui nous entendez. Voilà ce que vous dit votre chef. Si vous tombez malade, c'est parce que vous touchez votre masque, c'est parce que vous le mettez mal, c'est parce que vous ne respectez pas les gestes barrières.
Et là, on va les écouter décrire un peu ce qu'ils observent chaque jour, c'est ça, hein, les aberrations de
un reportage de Jean-Jacques, c'était mercredi dernier devant le rectorat de Lille.
Le but, en fait, c'est d'avoir une délégation qui va rentrer. Elle a été acceptée dès hier soir. Donc hier soir, le rectorat a dit « Ok, c'est bon, nous acceptons de vous recevoir ». Et donc, les personnes qui sont là avec les attirails de militants, bah, c'est aussi pour montrer, pour faire un petit peu de bruit, pour montrer à tout le monde qu'il y a un problème dans l'éducation, notamment à cause de la Covid-19, et qu'on a l'impression d'être un petit peu laissé pour compte, surtout par rapport que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de plein de choses, en fait. Et du coup, c'est révoltant, et donc on est là pour le montrer.
Vous pouvez nous dire qui est là, justement ?
Alors, là, on a plusieurs collectifs et plusieurs syndicats. Au niveau des syndicats, on a Force Ouvrière, on a la CGT, on a Sud Solidaire, donc Sud Éducation, on a aussi le SUNDEP, et... Donc j'ai déjà cité Force Ouvrière. Je vois aussi les drapeaux de l'UNEF. Et puis en termes de collectif, on a le collectif des AESH, 5962, ainsi que le collectif des stylos rouges.
Bonjour. Alors ici, vous êtes devant le rectorat. Hein.
Oui.
Vous dites que la rentrée ne passe pas. Mais qu'est-ce qui ne passe pas dans cette rentrée ?
Ben déjà le manque de personnel et puis les conditions sanitaires qui sont aberrantes dans le premier degré.
Vous êtes dans le premier degré donc.
Oui, dans le premier degré, ouais. où on respecte plus aucune des normes de sécurité qui sont édictées à longueur de journée dans les médias.
Pour quelle raison ?
Ben pour, je suppose, pour éviter de fermer les classes et puis pour que Blanquer perde pas son image de marque.
Vous avez des exemples ?
Oui, il y a des tas d'écoles où quand il y a un enseignant qui est atteint du Covid, l'ARS visiblement se manifeste pas. Quand il y a des enfants atteints du Covid, l'ARS dans mon école par exemple s'est pas manifesté, bien qu'il y ait un cas de Covid chez les parents ou chez les enfants. Donc on a vraiment l'impression que la hiérarchie tient pas à ce que ça se sache ou tient pas surtout à devoir fermer les classes.
Parce que maintenant, il faut plusieurs enfants qui soient malades pour que la classe ferme, c'est ça, hein ?
Oui, il en faut trois, oui. Donc quasiment, c'est impossible de fermer une classe, quoi.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour le gouvernement pendant ces deux mois de vacances pour mieux organiser la rentrée, selon vous ?
Ben, il aurait déjà dû recruter du personnel, déjà, pour alléger les classes, et puis...
Recruter du personnel enseignant, ça prend pas deux mois, il faut beaucoup plus de temps, quand même.
Oui, mais enfin, il a eu quand même depuis le mois de mars, il s'y devait s'y attendre, je pense. Je pense qu'il pouvait recruter sur liste complémentaire. Ça, c'est déjà fait, hein. Donc, il pourrait recruter sur liste complémentaire. Et puis, il pourrait surtout alléger les classes. Il y a quand même des endroits où ils sont 25, 26, ou voire même 30 dans une classe, quoi.
Travaille en lycée professionnel, oui. Bah, pour ajouter, c'est le même constat que mon camarade vient de faire, en fait. Moi, ce qui m'a interpellé surtout en dehors de cette mise en danger, pas seulement des personnels, hein, des élèves également, de leur famille, de tout le monde en fait. Hein. Les agents ne sont pas remplacés. Récemment, y a des agents qui ont été atteints du Covid, donc beaucoup de cas de contact, ils ne sont pas remplacés par le conseil régional. Donc les salles ne sont pas nettoyées, ils ne peuvent pas. On a attiré l'attention à la rentrée sur leurs conditions de travail qui étaient doublées ou triplées en termes de charge de travail. On nous a répondu que tout allait bien et qu'ils se débrouilleraient. Que voilà. Donc là, quand des agents sont malades ou absents, pour des bonnes raisons, ils ne sont pas remplacés du tout. Donc les agents qui ont déjà une charge de travail infaisable se retrouvent en plus avec encore... Donc c'est absolument pas possible en ce qui les concerne. C'est pas typique au LP, mais c'est un point qui me semble important. Au niveau des AED, des assistants d'éducation, les AED qui sont en ce moment cas contact ou en suspicion de Covid sont bien évidemment priés de rester chez eux. S'ils ont moins de 4 mois de contrat, ils ne sont pas payés. Voilà, donc je ne sais pas de quoi ils vivent, d'amour et d'eau fraîche sans doute. Voilà. Enfin, on est sur toute une tonne d'aberrations qui broient comme d'habitude les précaires, les plus faibles, les plus démunis, et c'est vraiment réellement insupportable.
Vous pensez que les règles sanitaires dans votre établissement sont respectées, peuvent être respectées ?
On a fait une heure d'info syndicale, nous n'avons pas de gel dans les salles, il n'y a plus de gel à la cantine. L'intendant dit qu'il n'a pas de sous pour en acheter, donc ça c'est absolument pas acceptable. On a quand même pas mal, un certain nombre d'élèves qui sont de milieux défavorisés, donc le masque, oui, ils en ont un qui traîne du lundi au vendredi, qui n'est pas lavé, qui n'est pas changé, donc la protection elle est nulle.
Qu'est-ce qu'il faut que le rectorat lâche tout de suite demain ?
tout de suite demain, c'est d'équiper correctement en termes sanitaires, d'équiper les établissements correctement. Ce qu'il faut qu'ils lâchent également, c'est recruter du personnel, je suis désolée, du personnel contractuel. Ce qu'il faudrait absolument, c'est que toutes les classes soient coupées par deux. Qu'on travaille avec des groupes de 10-15 éventuellement.
C'est possible ça ?
Si vous voulez s'en donner les moyens, je suppose que ça serait possible, oui.
Vous pensez que les enseignants et les enfants sont en danger lorsqu'ils vont à l'école, au lycée ?
En ce moment, bon, il y a du sensationnel dans les infos, mais les clusters actuellement, c'est au lycée et dans les facs, forcément. À la cantine, tous les élèves sont les uns à côté des autres et sans masque.
On retrouvera la suite de ce reportage devant le rectorat, c'était le mercredi dernier.
Oui, on passera à la suite du reportage de Jean-Jacques la semaine prochaine, très intéressant. Ouais. Les profs, c'est toutes les semaines qui sont dedans.
Dans chaque cluster de ce pays. Et, il faut qu'on parle là tout de suite du 17 octobre.
Oui, le 17 octobre, c'est une date intéressante dans notre pays, dans l'histoire de notre pays. C'est évidemment la création de la sécurité sociale. C'est aussi le massacre des Algériens du FLN le 17 octobre 1961. L'époque Papon, c'est quand même un préfet, c'est-à-dire que c'est le représentant du général de Gaulle. Ici, c'est le général de Gaulle, en fait, qui jette les Algériens à la Seine. Dans quelques jours, c'est le 17 octobre. Alors, chaque année, à Radio Campus, on vous passe cette chanson. C'est le bon moment de le faire. Ça sera aussi samedi 17 octobre, dans quelques jours, la fin de la marche pour la dignité et pour l'emploi de la CGT et des sans-papiers qui traversent la France en ce moment et qui marchent.
On en parlait la semaine dernière.
Alger capitale, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire, les colons terratisent. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction, tout un ramassis d'or dur. Quelques degrés au nord de l'équateur, je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur. Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed, gangréné du corps par la misère du Maghreb. Par les meurtres, les soirs de couvre-feu, par la peur du soldat français qui ouvre le feu. Ouvre les voiles, petit paquebot libérateur, emmène-moi au pays des enfants. Loin de l'inactivité beurre algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses. Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent. Verse une larme dans la Méditerranée, une goutte d'eau dans la mer contient la peine de ma terre damnée. Acosta Marseille, port autonome, cité phocéenne, un étranger parmi les autochtones. Direction Saint-Charles, gare ferroviaire, embarquement, quai 7, voiture 6, wagon fourrière. Croise le regard des îlotiers, me foudroyant le cœur comme un tir de mortier. Reçois la flèche de la haine par les appelés du contingent. Des papiers, je suis français, monsieur l'agent. Chemin de fer, terminus, Paris, gare de Lyon, la métropole et son peuple par millions. Quelques dizaines de francs serrés dans un point, serviront de premier contact au café du coin. Moi qui cherchais de la chaleur, j'ai eu le sang glacé quand mes yeux rencontrèrent les leurs, couleur iceberg bleuté, bluffé par leur manque d'hospitalité. Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité. Démoralisé, je reprends le chemin, lequel me conduira dans les quartiers maghrébins. Nanterre, monticule de bidonville, habitation précaire pour mon entrée en vie civile.
Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10.
Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien. 17e jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titré, couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre. Algériens de France dans les rues, nous allons descendre. Protester contre leurs lois discriminatoires, investissons leurs ponts et leurs centres. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rares rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel. Nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, scande à bas le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés dans une prison sans pilotis, nous sommes enfermés. Pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche
bouche, cette classe bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang, les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches, s'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure. Dans la chute, violemment ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices. Le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer. Aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil, sans penser aux tirailleurs et combattants zouaves. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen.
Made in, 17 octobre. Radio Campus Lille, disponible en DAB+. Et on reste dans les violences policières avec le troisième et dernier épisode du feuilleton sur David Dufresne. David Dufresne qui a sorti un film il y a deux semaines qui s'appelle Un pays qui se tient sage. Et là, on l'écoute, il était à la librairie Kléber à Strasbourg. C'était en février dernier.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber.
Nous ne sommes pas dans le même camp, madame.
On est le samedi 22 février et nous sommes à la librairie Kléber, place Kléber à Strasbourg, pour une conférence de David Dufresne.
Encore une fois, on revient à cette idée que vous avez travaillé à plusieurs reprises sur ce sujet au cours des deux dernières décennies. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre le moment où vous traitez de ce sujet au début des années 2000 et aujourd'hui? Est-ce que vous observez des évolutions, des grandes différences?
La grande différence, c'est que jusque dans les années 2000, la police française vit sur une image qui est celle de l'excellence du maintien de l'ordre. De mon point de vue, c'est autant une réalité qu'un mythe. Mais passons, disons que effectivement, depuis 1986, la mort de Malik Oussekine, il y a cette idée très rapide par la police française d'absorber des coups. C'est pour ça que l'équipement, par exemple, des policiers est de plus en plus Robocop. Au départ, c'est autant pour impressionner que pour absorber des coups. Il y a cette idée de montrer sa force pour ne pas s'en servir, donc c'est la même chose. Voilà, la police va être à peu près comme ça jusqu'au milieu des années 2000. Très précisément, on parle du maintien de l'ordre dit social. C'est-à-dire autour des manifestations d'ordre revendicatives, etc. Parce qu'en fait, il y a différents types de maintien de l'ordre. Il y a aussi le maintien de l'ordre dit festif. Donc ça, c'est tout ce qui est concert, etc. Donc fête de la musique. Donc on a vu à Nantes ce que ça pouvait donner. Et puis il y a le maintien de l'ordre sportif qui est autre chose encore. Mais disons que jusqu'au milieu des années 2000, vous aviez deux corps constitués, gendarmes mobiles et CRS, Compagnie de la Républicaine de Sécurité, qui grosso modo obéissaient à une chaîne de commandement extrêmement précise. Tout n'était pas exempt de violence, voilà, mais grosso modo c'était ça, c'était ce modèle-là qui était appliqué. Et puis à partir du milieu des années 2000, alors en partie en 2005, quand Nicolas Sarkozy décide, deux jours avant Clichy-sous-Bois, ça n'a aucun rapport, mais deux jours avant à la dalle d'Argenteuil, vous vous souvenez sans doute sa déclaration, vous voulez qu'on vous en débarrasse de cette racaille. En fait, ce soir-là, Nicolas Sarkozy annonce quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il dit que les CRS et les gendarmes mobiles qui étaient plutôt déployés pour les manifestations, vont être déployés dans les banlieues. Enfin, j'emploie le terme qu'il avait employé, sécuriser les banlieues. Et donc à partir du milieu des années 2000, on va avoir des opérations de police, CRS, gendarmes mobiles, BAC, ensemble. En 2007, les CRS vont être dotés de flashball, qui va devenir le LBD, etc. Et donc depuis le milieu, fin des années 2000, on voit un changement qui va être extrêmement clair avec les ZAD. Il y a la mort de Rémi Fraisse, évidemment, en 2014. Je veux dire que depuis, Malik Oussekine, c'est le premier mort en manifestation. Et puis ensuite, il va y avoir la Nuit debout, la loi travail, et là où en fait, il y a une accélération de ce à quoi on assiste vraiment depuis novembre 2018, avec les gilets jaunes, les mouvements lycéens, etc.
Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil, tu ressembles à un petit roi. Gonflé d'orgueil, mais comme tout le monde, tu finiras dans un cercueil. Et ce jour-là, je ferai la fête. Je serai content si on m'a pas tranché la tête. Si elle est dans pour avoir voulu tenir tête au président, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil et les médias, je t'en parle pas. Ils ne sont qu'un seul, ils ne travaillent que pour toi. Ton portefeuille, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil. Les flics inquiets, l'armée au pas. Les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi. Les foutus dieux, dieux du pétrole et dieux de l'emploi. Ils vont par deux comme les couilles qu'il me faudra pour vivre heureux, loin de tes règles et de ton droit, hors de ton jeu. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil, ça devient du grand n'importe quoi. Ta France en deuil, tu propagandes à tour de bras. Tu terrorises, un coup la peur des attentats. Un coup la crise, mais ne te réjouis pas trop vite. Je ne suis pas seul dans les petites ruelles où j'habite. J'entends que ça gueule, il y a des millions de gens comme moi. Qui en ont plein l'eau de tes tasers et de tes lois. De tes bourreaux qui cherchent à étouffer nos joies. Quitte à s'en prendre à nos marmots. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil. Aux armes citoyens, aux armes citoyens, allons déboulonner ces chiens, aux armes citoyens, aux armes citoyens, allons déboulonner ces chiens, allons déboulonner ces chiens.
Donc en gros, on est passé d'une police qui était plutôt tenue, avec une chaîne de commandement très forte, à une police que moi j'estime en roue libre, notamment avec les BAC, avec les compagnies d'intervention, grosso modo des policiers qui ne sont ni formés, ni équipés, ni entraînés à la gestion du maintien de l'ordre.
Bonjour, c'est par rapport au livre de Alexandre Langlois, L'ennemi de l'intérieur. Il est mentionné que les gaz utilisés en maintien de l'ordre se décomposent en cyanure dans le sang. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que les policiers sont au courant? Et autre chose, suite à la politique de confrontation du gouvernement entre les gilets jaunes et les policiers, je pense qu'une solution serait que les policiers soient suivis, beaucoup mieux suivis psychiatriquement et psychologiquement. Je trouve que ça... Je ne pense pas que ce soit la volonté du gouvernement de Macron, de Castanière, je ne pense pas.
Moi, je crois qu'on on fait face à un système. Ce système, c'est effectivement le recours massif à ces policiers, plutôt que le recours à d'autres choses pour résoudre les revendications, les crises, etc. J'en parle dans le roman, hein, quand vous avez des policiers sur les Champs-Élysées qui sont en poste dès 4h du matin... sans la possibilité d'aller aux toilettes.
C'est pas normal.
En mangeant un oasis, enfin en buvant un oasis et une barre chocolatée à midi, c'est évident qu'à 18-19 heures, ils sont pas dans un état qui est tout à fait serein.
C'est clair.
Alors, je n'ai pas lu le livre d'Alexandre Langlois. Alexandre Langlois, c'est ce policier qui est apparu au devant, enfin médiatiquement, qui fait partie de Vigie Police, qui a eu des mots très durs sur la gestion policière, etc. Concernant la composition du gaz lacrymogène, très sincèrement, je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. Les gaz sont utilisés de manière extrêmement massive. Hein. On se souvient du 1er décembre 2018, place de l'Étoile. Il y a eu à peu près 10 000 tirs de grenades lacrymogènes pour disperser officiellement 5 000 personnes. C'est-à-dire 2 grenades par personne. C'est-à-dire que c'est absolument pas pensable. En tout cas, c'est pas pensé pour ça, le gaz lacrymogène. Donc là, il y a eu effectivement une utilisation extrêmement massive. Il y a des études qui sont en train d'être menées par des médecins sur les répercussions éventuellement sanitaires.
Est-ce que, à partir du moment où on est exposé médiatiquement, comme vous l'avez été de plus en plus à travers Allo Place Beauvau, on finit par perdre ces sources policières qui vous font dire qu'il y a eu un véritable virage dans le maintien de l'ordre au cours du mouvement des Gilets jaunes?
Oui, il y a effectivement des sources qui se sont taries très très vite, d'autres au contraire qui se sont créées. Moi, ma chance, c'est que, à l'inverse des journalistes spécialisés dans la police ou dans la justice, qui font ça depuis 5, 10, 15, 20 ans. À partir du moment où ils sortent un ou deux livres par an avec des commissaires, on peut s'interroger sur une forme de connivence, ce qu'on appelle le journalisme de préfecture. Moi, la chance que j'ai, c'est que je m'intéresse à la police, et puis après j'arrête. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour tout à fait autre chose, c'était pour Jacques Brenne, par exemple. Vous voyez. Donc moi, je passe d'un sujet à l'autre, et donc, si vous voulez, je ne suis pas... C'est pas grave si une source ne me parle plus, parce que je peux faire d'autres choses. Et puis je reviendrai dans 5 ans, dans 10 ans. Et ce qui a été très étrange, en fait, au début d'Allo Place Beauvau, c'est qu'en fait, ce sont des sources de police que je n'avais pas du tout alimentées depuis des années, puisque moi j'ai vécu 7 ans et demi au Canada, donc j'avais vraiment coupé les ponts. Et en fait, vraiment début décembre, Presque les premiers encouragements venaient de policiers.
Qu'est-ce qui vous disait, comment est-ce qu'ils vous
encouragent ? Qui étaient aussi sidérés que moi. Alors, ils sont très minoritaires. La chance qu'a la République et la démocratie, c'est que dans la police, il y a beaucoup d'inimitié. Hein, donc les gens parlent. En même temps, il y a une omerta terrible, il y a un devoir de réserve, une obligation de réserve qui fait qu'en réalité, très peu de policiers peuvent parler. C'est pour ça que les seuls qui sont autorisés à le faire sont les syndicalistes, qui sont à la fois les co-gestionnaires des carrières de leurs adhérents et la courroie de transmission du ministère de l'Intérieur. Donc leur parole, qui est extrêmement importante, elle n'est pas tout à fait neutre. Elle est tout sauf neutre, même. Elle est même assez complexe, en réalité, dans ce qu'ils peuvent dire. Donc effectivement, il y avait au début des gens avec lesquels j'irais pas trop loin pour pas les trahir, mais des gens avec lesquels j'avais pu travailler des années auparavant, quand j'avais fait un premier bouquin sur le maintien de l'ordre, et un film, etc. Même chose à la préfecture, même chose Place Beauvau. Donc c'était ça qui était assez... assez surprenant, et c'est ce qui me permettait d'ailleurs de me dire qu'on n'était pas tout à fait dans le faux à énumérer toutes ces violences policières, à les documenter, à les recenser, à les vérifier, etc.
On passe au rouge chaque lundi de 19h à 20h sur Radio Campus 106,6. Allez! C'était Dufresne sur les violences policières, et là on va repartir avec Massy et Toto dans la manif pour tous, je pense, ou ils vont en parler peut-être, je sais pas.
On va débloquer.
Massy revient dans la partie.
Et par tant de rage, nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Comment dire ? Je sais pas, je perds un peu mes mots.
Bah, vous avez remarqué, quand on écrit nos chroniques, on aime bien les définir par quelques adjectifs en intro.
Mais oui, là... on n'en a pas.
Eh ben moi, je vous conseille d'avaler une boîte d'antivomitifs. On va vous parler de Zemmour et de la manif pour tous.
Quand on vous parle de Zemmour, vous pensez à quoi ?
Bah, je sais pas, au racisme.
Suprémacisme blanc.
Islamophobie.
Il y a vol.
Sexisme.
Haine des banlieues.
Enfin, vous pensez à toute la merde idéologique de l'extrême droite.
Oh. Tout ce massif d'idées bien de merde qui aime voir le jour dans un système capitaliste à bout de souffle.
Mais Toto, il n'y a pas que le système capitaliste qui est à bout de souffle. Il y a Eric Zemmour aussi.
Eh ouais, l'enfoiré positif au Covid-19.
Et comme quelques jours avant, il est allé vomir au micro de CNews.
Du coup, CNews est qu'à contact.
On n'aurait jamais pensé que la maladie qui nous bouffe notre vie sociale, nos libertés individuelles et collectives, soit plus efficace que le CSA.
Mais si c'est quand même un peu une période bien de merde pour l'extrême droite, hein.
Zemmour positif au Covid et à la haine de l'autre.
Mais ça, c'est pas nouveau.
Le procès de Claude Herman vient de s'ouvrir au tribunal de grande instance de Lille.
Notre barbouze locale d'extrême droite passe devant la justice pour avoir revendu les armes qui ont servi à Paris lors de l'attentat de l'hypercacher, passé sous silence par 5 services de police et d'État.
Avant de balancer l'ensemble du système d'indic au juge.
Sous les yeux surpris du procureur, hein. Non, on déconne. Ah,
Claude Herman s'est permis d'arriver en retard de plus d'une demi-heure, accompagné d'une
personne. C'est pas grave.
Accompagné d'une personne.
Il a des cas contacts dans la
dont
police.
Dont il nie toute relation devant les magistrats.
L'honnêteté jusqu'au bout, le Claude. Hein.
On te rappelle quand même. On te rappelle quand même que t'es inculpé pour trafic d'armes.
Pour le plus grand bonheur de Fabien Roussel.
Oh. Bref, une
quoi,
belle période de merde pour l'extrême droite.
Ouais. On t'écoute.
Ouais, une belle période de merde pour l'extrême droite. Mais il y a bien la manif pour tous hein, qui a essayé de faire parler un peu d'elle ce week-end.
Petit point historique. La manif pour tous a vu le jour le 2 novembre 2012, après la loi Taubira qui autorise donc le mariage homosexuel et les adoptions par ces couples. Il s'agit d'un collectif d'associations qui se bat contre le droit des autres, contre des droits qui ne les concernent même pas. La manif pour tous est un collectif homophobe et raciste qui instrumentalise les enfants pour faire passer leur idéologie politique proche de l'extrême droite et promouvoir une idéologie catholique radicale.
Ça pue clairement la petite bourgeoisie catho bien réac à l'image de sa présidente, attention, Ludovine de La Rochère, dont le nom de jeune fille est Ludovine Maigret d'Etigny de Série.
Ah oui.
À la naissance de ce mouvement, ils ont quand même réussi à réunir quelques milliers de personnes avant de perdre la moitié de leurs partisans, soit de vieillesse ou plus récemment du Covid.
C'est ainsi qu'ils étaient un peu moins de 200 personnes à défiler dans les rues lilloises samedi. Ça. Tu y étais, toi, Toto ? Comment c'était ?
Bah, pour l'anecdote, je suis arrivé rue Inkermann, hein, pour celles et ceux qui connaissent. Et là, j'ai vu 200 personnes agiter des drapeaux rouges et verts.
Rouge et vert, de loin,
je m'attendais à la naissance, à la renaissance du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Mais quand je suis arrivé au milieu du cortège, bah, bizarrement, je connaissais personne. J'étais entouré par des faves qui avaient globalement l'âge de déposer un dossier d'admission en EHPAD. J'ai rapidement fait demi-tour en contournant le cordon de police qui, encore une fois de plus, protège les fascistes. Je me suis retrouvé avec les 400 opposants, du coup ceux qui sont de notre côté. Hein. Mais pour revenir sur le cordon de police, il était juste en osmose, clairement, avec le service d'ordre des FAF, dont certains et sont membres de la Citadelle.
Ça, c'est vrai.
Et pour finir sur le cordon de police, hein, ils n'étaient clairement pas prêts, les Condés, à voir 400 opposants partir spontanément en manif sauvage. On n'était pas très organisés, mais le tout était vraiment cohérent. La manif pour tous n'a plus remonté que la rue Inkermann avant de se lancer rue Solfay, protégée une nouvelle fois par les Condés.
Moi, en sortant du travail, j'ai appelé des copains qui étaient dans la contre-manif. Derrière eux, j'entendais de la musique, des slogans, des cris, de la colère, des rires. Je me suis retrouvée seule face à une barrière de flics qui protégeait la manif pour tous. Eux aussi semblaient en osmose, flics et faves, sur la même ligne de défense, sur la même longueur d'onde, pardon. J'ai fini par croiser au bout de quelques minutes la contre-manif. Un arc-en-ciel d'intensité. Quand je vous ai rejoint en sortant du travail, Toto, j'avoue que je m'attendais pas à ça. C'était au-dessus de mes espérances. Environ 400 ou 500 personnes déterminées. Autant de meufs que de gars. Des drapeaux LGBT sur les sacs, sur les pancartes, sur les maquillages, des capuches noires, des antifas respectueux, des gilets jaunes et quelques syndicalistes en soutien.
La stratégie des flics, hein, pour y venir, était clairement nous éloigner du cortège de faf. Bon, ok. Vous nous éloignez du cortège de faf, mais c'est parti pour deux bonnes heures de manif sauvage dans l'île sous les slogans LGBT, démobilisation antifasciste, anticapitaliste. La police était assez distante jusqu'au moment des interpellations.
La BAC a chopé plusieurs personnes en hurlant des insultes homophobes. Sauf que nous sommes mobilisés pour défendre des droits encadrés par une loi.
Le délit était bien commis de l'autre côté de l'île, hein, par la manif des Réac.
C'est pas la première fois que la police protège ses manifestants appelant à la haine. Le 1er mars dernier, ils s'étaient réunis devant l'opéra pour chanter des chants catholiques et prier pour la paternité et contre la PMA.
Les opposants ont été la cible de jets de pétards, hein, par ceux qui portent des pulls en cachemire, dont un était armé d'une gazeuse couvert par le commissaire qui était présent sur place.
Quand est-ce qu'on va cesser ? Quand est-ce que ça va cesser ? Quand est-ce que le pays des droits de l'homme va réagir sur l'impunité liée au viol de ces droits de l'homme ? Quand est-ce qu'on va arrêter de tendre le micro à la haine et à la division ?
Les FAF vomissent leur argumentaire au nom de la liberté d'expression.
Tu dis ça pour le reportage d'avant.
Mais sachez que la liberté d'expression doit être employée pour diffuser des idées constructrices, pas pour véhiculer des appels à la haine sur des bases discriminatoires.
La liberté d'expression se doit d'être l'étendard de la critique d'opposition, pas en faire valoir des discriminations.
Et on vous apprend rien, la relation entre discrimination et capitalisme est évidente.
Les discriminations, quelles qu'elles soient, sont symptomatiques de la crise que nous connaissons depuis maintenant de nombreuses années. Les puissants sont les commanditaires.
L'État, le maître d'œuvre.
La police, le bras armé.
Et les médias, les chargés de com.
Il est urgent de sortir de ce système sans attendre le grand soir.
C'est aujourd'hui, maintenant que ça se passe.
Dans ta vie de tous les jours.
Individuellement ou collectivement.
Rencontre ton voisin, parle-lui, tu te sentiras moins en insécurité.
Parle au charclos en bas de ta rue, hein. il aura sûrement besoin d'autre chose qu'une petite pièce.
Va dans l'assaut de ton quartier.
Parle aux syndicalistes de ta boîte, hein. Ils ont toujours besoin d'un petit coup de main.
Parle autour de toi.
Parle ces idées répugnantes que propagent les Zemmour.
Les Nolos.
Les Dieudo.
Les Soral.
Les Le Pen.
Les Forissons.
Les syndicats de police.
On a tous au minimum une bonne raison de les détester. Nos salutations révolutionnaires et à la semaine prochaine.
Salut. Allez, on passe au rouge, c'est terminé parce que rien n'a encore changé. La lutte des classes continue sur cette antenne chaque mercredi.
Mais oui,
et chaque mercredi, l'heure de le mettre à 18h30. Et pas que, le BCE, premier mercredi du mois. Salut Milky.
Ciao.